présenter les deux camps opposés. Côté démocrate, d'abord, l'avocate Angèle Brigitte Kouimo, présidente de Believe in Africa. Elle a notamment présidé le groupe des femmes dirigeantes pour Hillary Clinton dans la région de Washington DC. Actuellement, en déplacement au Maroc, elle nous rejoint au téléphone de Rabat. Et pour défendre les couleurs républicaines, Prince Kamano, un militant du Parti républicain et un supporter du président Donald Trump, il est également à la tête du Makona Fund. Il est à mes côtés sur ce plateau dans la capitale américaine. Angèle Kouimo, pour vous les démocrates, quels sont les principaux enjeux de ces élections de mi-mandat? Brièvement, si vous pouvez.
Bonjour Aristide, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau.
Bonsoir, merci d'être là.
Voilà, bonsoir, oui, bonsoir ici chez nous. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que c'est un référendum. En général, deux ans, les premières élections partielles qui ont lieu après les élections présidentielles servent toujours d'évaluation du mandat qui est confié au président. Dans le cas de cette année-ci, ce n'est pas seulement un référendum d'agenda républicaine qui a la majorité à la Chambre au Sénat, mais c'est surtout un référendum et un vote de confiance ou de désaveu du président personnellement à cause de son style, à cause de la nouvelle masse électorale qui draine, qui ne fait pas forcément l'unanimité au Parti républicain. J'ai très bien vu l'article de Colin Powell, c'est dit il y a hier ou avant-hier, oui, dans lequel il dit que le régime le mandat de Donald Trump transforme de la Constitution en we the people, nous le peuple, mais plutôt en moi le président, we the people, we the president. Donc je pense que c'est non seulement un problème national, mais aussi un problème international.
Un avis que j'imagine, notre invité ici sur le plateau ne va pas partager certainement, référendum peut-être, mais pour certainement, qu'en pensez-vous les enjeux brièvement pour les Républicains, Prince Kamano?
Pour les Républicains, à mon avis, et je parle ici simplement, je ne suis pas un agent de M. Trump, mais c'est mon président, je l'admire. Pour nous, les Républicains, c'est de maintenir l'allure qui a été adoptée depuis la fin du mandat moribond d'Obama. Mm. Et nous avons vu l'économie fleurir, nous avons vu l'Amérique redevenir la puissance mondiale, nous avons vu un président qui ne recule pas devant les difficultés, nous avons vu un président qui prend les responsabilités. Et nous ne voulons pas faire un retour en arrière pour la timidité que l'Amérique a connue pendant les années d'antan. Et c'est pourquoi pour nous, l'enjeu est très important. Ouais. Il faut gagner.
Angèle Kouimo, voilà, vous l'avez entendu, pour les Républicains, on ne veut pas un retour de l'Amérique d'Obama.
C'est vrai, le risque...
Ça vous fait rire,
ça me fait rire parce que on ne va pas forcément faire l'unanimité par rapport au bilan de Barack, de président Barack Obama, mais il faut reconnaître quand même que l'Amérique a regardé.
Qui d'ailleurs se jette également dans la campagne. Hein.
Voilà, ouais. L'idéal de démocratie, les symboles et les valeurs que l'Amérique représente qui sont plus ou moins mis à risque maintenant avec la nouvelle présidente Donald Trump, pour lequel le symbole d'unité n'existe plus, l'acceptance des la diversité est plus ou moins bafouée. C'est vrai qu'il est.
Mais Angèle, vous savez que les Républicains accusent les démocrates également de tenir un langage des fois assez violent, même des fois un appel à la violence, comme par exemple l'élu démocrate de Californie, Maxine Waters, qui apparemment avait exhorté ses partisans à harceler les membres du cabinet. Et puis il y a eu également Hillary Clinton, pour laquelle vous avez travaillé, qui a déclaré qu'on ne peut être civil avec les membres du Parti républicain. Et puis il y a eu cette vidéo largement distribuée de l'ancien procureur général de ce pays, Eric Holder, qui dit aux membres de l'auditoire démocrate lors de rassemblement électoral qu'il devrait donner des coups de pied aux républicains quand ils considèrent qu'ils s'abaissent. Donc, alors, il faut équilibrer un peu les choses deux côtés. C'est vrai que c'est très polarisé.
Oui. Le problème, justement, voilà l'environnement dans lequel la politique américaine se retrouve.
Oui.
C'est le terrain de l'intolérance. En fait, le vocabulaire, les expressions extrêmes sont plus ou moins tolérées. La diplomatie et la courtoisie politique n'existent plus. Déjà, Washington était divisé de l'époque de Barack Obama. Maintenant, il est en feu. Et c'est en cela que ça rend la gestion des choses d'État, la gestion du gouvernement de la chose publique un peu difficile. Ouais. Quel que soit le parti qu'ils ont au pouvoir, hein, Washington est complètement divisé, Washington est complètement ingérable ouais. à cause des deux extrêmes. Mmh. Alors, et je pense qu'il faut trouver un leader qui va pouvoir ramener les gens à la comptabilité politique.
Voilà plutôt un langage modéré, Angèle. Voilà. L'immigration est un des sujets phares de cette campagne de mi-mandat. Une caravane composée de milliers de Sud-Américains se dirige vers la frontière américaine. Avant cela, vous vous rappelez bien de ces 700 000 bénéficiaires du programme DACA sous l'ère Obama qui permettait à des jeunes sans papier de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Eh bien, ils ne sont plus au devant de l'actualité depuis quelque temps, mais ils sont bien là et ils comptent jouer leur partition dans ces élections cruciales. Un reportage de Raymond Taylor rendu par Abdourahman Zia.
Julian Ulises Juarez est venu aux États-Unis à l'âge de 10 ans en provenance du Mexique. Grâce à une bourse, il va à l'université et devient un reporter télé. Et en 2017, il remporte un trophée des Emmy.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA. And this is very special because of that.
Lorsque j'ai eu mon trophée, je voulais que cela fasse partie de mon discours. Je voulais être devant toutes ces personnes, dont beaucoup travaillent pour des chaînes anglophones, pour leur montrer qui je suis. Voilà ce que DACA a rendu possible.
Depuis 2012, lorsque l'ancien président Obama avait annoncé le programme DACA, 700 000 sans-papiers amenés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants ont obtenu le droit de travailler et de vivre ici. Grâce à une autorisation de travail valable pour 2 ans renouvelable. Le président Trump a annoncé en 2017 la fin de ce programme, renvoyant la balle au Congrès pour trouver une solution permanente. Plus d'un an après, et à quelques jours des élections de mi-mandat, les Dreamers comme Juarez attendent toujours. D'autres controverses comme le mur à la frontière avec le Mexique ou la séparation des familles ont éclipsé la situation des Dreamers.
Il y a toujours quelque chose qui vient pour occuper la scène. Et franchement, ils nous oublient. Ils nous oublient parce que c'est dans les circuits judiciaires et ils disent que ça va s'arranger ou qu'ils peuvent postuler encore et qu'au moins leur documents peuvent être renouvelés en attendant, donc ça va. Et c'est pour cela que rien ne se fait.
Pour les 13 000 bénéficiaires du DACA dans le Nevada, les élections de 2018 pourraient aboutir à une nouvelle déception. Mais au moins, c'est une nouvelle occasion de se faire entendre. Les 29% de la population latino dans cet État sont attentifs.
La discussion, c'est ma famille est attaquée, mon voisin est attaqué, mes amis sont attaqués. Et peut-être que je ne suis pas touchée personnellement, mais je me soucie de ces personnes, car elles font partie de ma vie.
Même si les Dreamers n'ont pas le droit de voter, certains d'entre eux se disent qu'ils n'ont rien à perdre en galvanisant les électeurs.
Ma génération ne s'intéressait pas à la politique et on se disait que notre vote ne comptait pas. Donc je mets la pression sur mes amis, je leur demande de me rejoindre dans cette aventure pour essayer de changer les esprits.
Quelle que soit l'issue de ces élections, ces jeunes Dreamers espèrent que leur statut sera au cœur des priorités de la prochaine législature.
Angèle Cuemo, la caravane est-elle l'élément perturbateur qui est venu occulter les thématiques favorables aux démocrates, dont certaines dispositions de l'Obamacare, la couverture maladie universelle évidemment, jugée bénéfique par une bonne partie de l'électorat?
Oui. Ce que je trouve un petit peu dommage dans ce contexte-ci, surtout par rapport à l'immigration, c'est que ça a toujours été un ping-pong politique. On en parle toujours beaucoup pendant les élections. Oui. Et puis après, pas grand-chose est fait. Quel que soit le parti qui arrive au pouvoir. Vous vous souvenez de l'époque de Trump, du président Bush, il avait fait le mur. Il a autorisé le mur d'un 700 milliards de dollars qu'il n'a pas financé. Il a eu une politique de compréhensive, complexe, pour régler les problèmes d'immigration. Le président qui arrivait après a fait pareil. Et maintenant, le président Trump qui prend l'extrême. Bien qu'il soit justifié. Mais malheureusement, c'est toujours un gros débat pendant les élections parce que ça sert aux partis respectifs pour galvaniser leurs troupes. Aujourd'hui, la caravane sert à mobiliser les conservateurs, et les latinos et le reste. les problèmes de droits de reproduction aussi, c'est pareil. C'est des grands débats pendant les élections, avec d'un côté les démocrates qui défendent les droits de la femme et de l'autre côté les conservateurs, ouais. les néo-conservateurs républicains qui sont contre l'avortement. Mais concrètement, ce qui va se passer dans les jours qui suivront, ouais. c'est que le vote sera très serré parce qu'aujourd'hui, toutes les bases sont mobilisées à ouais. cause du
On doit faire une petite pause très rapidement, Angèle, mais presque à Mano, très rapidement, j'aurais aimé vous demander l'affaire des colis qu'on dit piégés et même cette tuerie qui a été perpétrée dans cette synagogue de Pittsburgh. Tout cela aura-t-il un impact sur ces élections, d'après vous, en deux mots ?
Absolument. Oui. Toute chose a un impact. Ça dépend maintenant quel est l'impact et qui
Et vous, gagne. En tant que républicain, vous pensez que ça va affecter les républicains de manière
négative ? Je ne prends pas la responsabilité d'un fou qui attaque tout le monde. Il ne savait pas qui était de quelle partie dans la synagogue.
Oui.
OK. Donc,
vous avez les détracteurs du président Trump qui pointent ce problème de langage, de rhétorique.
C'est tout à fait. Ils se jouent de ça. Ils veulent que Trump reste calme. On l'attaque, qu'il ne dise rien, qu'il ne défende pas sa cause. Et la presse ne le défend pas. La presse l'attaque. Il est le seul à se défendre.
Débat. C'est tout un débat en lui-même. Et maintenant, oui. Deux commentaires Facebook. Hassan Omar de Djibouti, cette élection est cruciale pour le président Trump et va refléter sa cote de popularité. Elle va également impacter sa politique. Et Alphonse Mouaki, RD Congo, le thème qui va mobiliser beaucoup d'électeurs demeure l'assurance maladie qu'exploitent les démocrates dans la campagne électorale. Les Américains raffolent Obamacare. En fait, il y a un sondage qui le dit également. Alors, n'allez nulle part ailleurs, la deuxième partie de Washington Forum dans un instant. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Merci d'être toujours des nôtres. Nous braquons les projecteurs sur les élections de mi-mandat américaines. Nous allons retrouver nos invités dans très peu de temps. Une des thématiques de la campagne demeure l'économie, plus particulièrement l'emploi. Le président Donald Trump affirme jouer un rôle de premier plan dans la revitalisation de l'économie et la création d'emplois dans le secteur manufacturier. Les Américains touchés par l'évolution de l'économie se manifesteront vont-ils le jour du scrutin ? Comment vont-ils voter ? Ramon Taylor de la VOA s'est rendu dans l'Ohio, un état clé pour avoir des éléments de réponse. Son reportage est rendu par Salwa Jaafari.
L'Ohio a perdu 100 000 emplois manufacturiers pendant la grande récession de la fin des années 2000. Et l'État a voté pour le président Donald Trump en 2016. Depuis lors, le secteur a connu une embellie.
C'est une économie en croissance, que cela ait commencé il y a 4 ans ou 8 ans. Cela va tout simplement dans la bonne direction.
Marcus Odoms a récemment obtenu un certificat en maintenance de l'automatisation industrielle. Des programmes comme celui-ci visent à former une main-d'œuvre aux compétences requises dans un secteur de plus en plus automatisé.
Just because your parents worked at a factory or,
le fait que vos parents travaillent dans une usine ou sur un site ne signifie pas nécessairement que vous y obtiendrez un emploi aussi. Il y a beaucoup moins de main-d'œuvre non qualifiée que par le passé. Les usines sont équipées de robots et d'équipements de haute technologie.
Cela limite inévitablement les opportunités pour les travailleurs plus âgés.
Il s'agit avant tout d'acquérir ces nouvelles compétences et talents et nous avons l'impression que lorsque nous avons 5% ou moins de chômage, tous ceux qui veulent faire partie de la population active le seront. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'ils ont d'autres ambitions ou circonstances.
Toledo a voté pour les démocrates à l'élection présidentielle de 2016, tandis que les comtés ruraux du nord-ouest de l'Ohio sont devenus républicains. Les électeurs qui attribuent la reprise à Donald Trump sont plus susceptibles de voter républicain lors de ces élections de mi-mandat. Brandy Corwin, ancienne ouvrière du secteur de la fabrication devenue employée d'un centre d'appel, estime que les présidents Obama et Trump ont tous deux eu un rôle à jouer dans la reprise de l'économie américaine. Mais le climat politique négatif l'a empêché de voter.
À l'époque, c'était quel président va nous aider à reconstruire notre pays? Qui va être le président qui va nous rapprocher davantage de nos objectifs? Et maintenant, je sens que c'est plutôt qui puis-je traîner le plus possible dans la boue?
Trump, qui se définit lui-même comme le président qui crée le plus d'emplois, a promis de se rendre dans l'Ohio dans le but de soutenir les candidats de son parti.
Un sujet que nous allons d'emblée aborder avec nos invités, la démocrate Angèle Cuomo, présidente de Believe in Africa. Elle fut la conseillère législative de l'élu démocrate Bobby Rush. Elle est basée à Washington, mais nous rejoint ce soir de Rabat, la capitale marocaine. Et avec moi, dans le studio 52 de la VOA, le militant républicain Prince Kamano, également supporter du président Donald Trump. Il dirige le Makona Fund. Angèle Cuomo, les républicains évoquent la bonne santé économique du pays avec une situation de plein emploi et une croissance qui devrait dépasser les 4% cette année 2018. Ils accusent les démocrates d'être mauvais pour l'économie et l'emploi. Cela va-t-il affecter les démocrates?
Je pense que non, parce que sur les questions d'économie, les opinions sont partagées. Et puis en général, ce qui est déterminant au niveau des élections, c'est la capacité de chaque candidat à mobiliser sa masse. En général, ce n'est pas l'économie qui mobilise les masses. C'était la santé, l'immigration, l'éducation pour les jeunes, si on réussit à les convaincre à sortir, mais pas forcément l'économie, parce que les gros débats sur l'économie ne sont pas forcément de l'entendement de la population, du peuple, la population normale. Alors qu'en général, on réussit en général à mieux les toucher, à les inspirer, à les mobiliser, lorsqu'on parle des questions personnelles comme la santé et tout ça. Donc je ne pense pas que l'économie soit un gros enjeu, bien que ce soit un facteur déterminant. Mais ça ne changera pas grand-chose au niveau des politiques générales.
Oui. Prince Kamano, nous l'avons entendu, l'Obamacare est revenu sur le tapis et on accuse les républicains de vouloir maintenant torpiller certaines dispositions, ces dispositions protectrices. Alors cela va-t-il jouer contre les républicains à ce scrutin?
Pas du tout, ça ne doit pas jouer contre les républicains. D'abord, il y a une confusion. Obamacare n'est pas nécessairement la santé, parce que quelqu'un vous dit que vous avez une assurance ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé et que aussi quand vous allez voir le docteur, vous êtes capable d'utiliser cette santé. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent payer pour la santé. La santé, elle est disponible, l'assurance santé est disponible, mais est-ce qu'elle est abordable pour la plupart des Américains? Non.
Mais il y a des garanties que l'Obamacare donne, bon, ça a changé de nom évidemment, à des malades, à des patients qui sont là avec des conditions déjà dont ils souffrent. Et c'est ce qu'on appelle les pre-existing conditions. Et les démocrates sont en train de faire campagne là-dessus, que les républicains veulent se débarrasser de ça.
Quel est le républicain qui fait la campagne contre pre-existing conditions? Il n'y en a pas. Aucun républicain ne va vous dire que les conditions déjà, que le malade a déjà...
Mais ça, c'est parce que les sondages montrent que la santé... C'est au cœur du débat et ça c'est revenu sur le tapis dans ces élections.
Absolument.
Donc personne ne l'attendait. Mais
écoutez, qu'est-ce que vous croyez que les démocrates peuvent utiliser pour une campagne aujourd'hui? L'économie n'est pas à leur faveur, l'immigration n'est pas à leur faveur, tout ce qui se passe n'est pas à leur faveur. Il faut aller chercher dans la corbeille vieille pour retirer Obamacare et ressusciter Obamacare.
Alors, les femmes sont présentées comme le segment électoral déterminant des midterms. Sur les 50 dernières années, elles votent en plus grand nombre que les hommes. Et jamais il n'y a eu autant de candidates aux élections de mi-mandat. Caroline Pressouti de la VOA s'est rendue à Montclair, dans le New Jersey, pour un gros plan sur les problèmes qui préoccupent les femmes. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma.
Des femmes blanches et instruites. Pour les experts, elles sont la clé de ces élections de mi-mandat.
Can I have a small beet salad to go, please?
Lynn Feddell, détentrice d'une maîtrise, est institutrice dans le New Jersey. En 2016, elle a voté pour un candidat autre que Trump ou Clinton. Cette fois-ci, elle va soutenir les démocrates.
Je crois que le gouvernement peut faire beaucoup pour l'égalité dans les secteurs du logement, de l'éducation, pour la protection de l'environnement. Et en fait, il devrait faire davantage.
Certains choisissent de rester dans le camp républicain à cause de la question de l'immigration, même s'ils regrettent d'avoir voté pour Trump en 2016.
Je suis une immigrante. J'ai dû venir ici légalement et j'ai payé pour avoir tous mes documents. Cette histoire d'immigration illégale, moi je suis contre.
Pour des propriétaires de petites entreprises qui normalement sont indépendants, le thème clé, c'est l'économie.
Je mettrai l'accent sur des questions comme la responsabilité fiscale et financière, la réduction de certains programmes et régulations.
Des études de l'Institut Pew remontant jusqu'en 1992 révèlent que les femmes sont plus enclines à voter pour les démocrates. En 2016, 54% des femmes ont soutenu Hillary Clinton. La stratégie du Parti démocrate, pensent les analystes, c'est de chercher à regagner les électrices en proposant des candidats sans expérience politique.
Il y a des gens bien formés, des entrepreneurs, des médecins et scientifiques qui pourraient attirer un public différent comparativement à une candidate libérale typique.
L'ancienne pilote de la marine de guerre brigue un poste dans une circonscription qui n'a élu aucun démocrate depuis 36 ans. Mais là, un supporter populaire parmi les démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden.
Considérant ceux qui participent à nos meetings et organisent des levées de fonds, on peut dire que le vote féminin est crucial ici.
En face d'elle, Jay Weber, un républicain, il mise son expérience en tant qu'élu régional. Cette pub semble viser les femmes car on y voit son épouse et ses enfants. Il a aussi mobilisé un groupe appelé Femmes pour Weber.
Il me semble que le désir des femmes et des hommes, en grande partie, c'est une économie florissante.
Le produit intérieur brut du pays a augmenté en moyenne de près de 3% sur chaque trimestre depuis l'entrée en fonction du président Trump. Mais la question est de savoir si la vigueur de l'économie suffira à maintenir ce district aux mains des républicains. Les principaux sondages montrent que Weber et Sherrill sont dans une course serrée.
Le vote des femmes sera-t-il déterminant? Réponse évidemment mardi prochain. Alors, il y a trois scénarios qui sont envisageables d'après les observateurs. Une chambre des représentants démocrates, mais un Sénat républicain, une vague bleue démocrate sur les deux chambres, et puis une victoire totale des républicains. Angèle Cuomo, peu importe l'issue, quelle qu'en soit l'issue, va-t-elle avoir un impact sur l'agenda du président Trump, dont sa politique étrangère qui concerne l'Afrique, bien évidemment? En deux mots, si vous pouvez.
En deux mots, je pense que cette élection aura un sérieux impact non seulement sur la survie de la démocratie américaine, mais aussi sur la politique étrangère. Parce que ça voudrait dire que si les démocrates prennent le contrôle d'une des chambres, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité d'impeachment. Ça veut dire qu'au moins le check and balance sera plus actif. Il faut essayer de contrôler un petit peu les actions du président Donald Trump. Et s'il ne contrôle pas, si ça gagne, si la majorité reste républicaine, alors là, le président Trump a un chèque en blanc pour continuer ses politiques. Sur l'international, les États-Unis ont...
En deux mots, Angèle, malheureusement, le temps, je dois quand même donner la parole à Prince Kamanou, en deux mots.
Excusez.
Et donc l'impact de l'issue sur la politique de Trump.
Bon, la politique de Trump, il y a deux aspects. Un aspect, les anti-Trump seront toujours contre la politique de Trump. Mais ce que nous avons constaté, les démocrates qui avaient prédit que on était sur le chemin de l'enfer, c'est pas l'enfer. Trump est en train de gagner, Trump est en train de réussir. L'Amérique ira avec Trump.
On connaîtra le verdict mardi prochain. Voilà, mardi. Point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide de Washington. Merci à toute l'équipe. Je vous dis à très bientôt.